Donc la première année dans un camp, puisque vous êtes dans un camp, vous
oui,
arrivez dans
on
un
est,
camp.
Oh,
Comment
oui.
ça se passe, ça, cette entrée dans ce camp?
Alors, ça se passe. D'abord, on dit un camp, c'est pas vraiment un camp. C'est que les Khmers Rouges commencent d'abord à cadrer, à recenser la population en nous disant qu'il faut rester dans tel ou tel village et créer des coopératives. Et la première année, on est surtout surveillé par les gens du village. Les Khmers Rouges disaient que les gens de la ville, ce sont des impérialistes. Ce sont des éléments mauvais. Il faut les aider à, il faut les rééduquer. Donc, la rééducation se passe par des travaux forcés, en faisant des digues, ou des travaux de la rizière. À ce moment-là, je ne savais rien faire de mes 10 doigts, si vous voyez. Donc, il fallait apprendre tout cela, et en plus, on a des espions de partout. On ne peut faire confiance à personne.
Ça, cela doit être quand même assez difficile. La délation est constante.
Voilà, est constante.
Et enfin, de toute façon, la démarche, elle se retrouve dans beaucoup de pays et beaucoup de dictatures, celles que vous énoncez. En tout cas, à l'époque, on voulait éradiquer tout intellectualisme dans le pays, toute culture.
Oui, le truc, c'est de... Le truc...
On vous en prie.
Le but des Khmers Rouges...
C'est l'accent du...
Voilà, là, c'est vraiment la contagion française. Alors, le but, c'est de créer une société autarcique, une société vraiment Khmer, si vous voulez, qu'il n'y a aucune influence extérieure, surtout pas l'influence de l'Occident. C'est cela, une société pure. Une société, il n'y a que des Khmers purs, voilà.
Mais cela ressemble un petit peu, à un moment donné, à votre démarche. Cela ressemble, hein, je dis bien. C'est-à-dire, vous aviez envie que votre identité puisse ressortir en tant que population cambodgienne, sans que véritablement l'Occident vienne, aussi à tous les niveaux, vous perturber.
Oui, bien sûr. Mais là, 4 ans, j'ai tout le temps de réfléchir à tout cela. Je pensais en effet qu'on devrait avoir une identité nationale, une identité khmère. Mais cette identité khmère, ça ne veut pas dire une identité qui supprime toutes les autres identités. Comment vous expliquer cela? Une identité qui vient à partir des dialogues avec les autres. C'est comme une mosaïque, mais il faut quand même pas que dans notre pays, ce qui se passe au Cambodge, qui était un pays petit, bouddhiste, le Cambodge était très tolérant. Et il y avait beaucoup de petits groupes de gens, des Chinois, des Vietnamiens. Et il y en a des gens qui ont vécu pendant 2 générations au Cambodge et qui ne parlaient pas le cambodgien. Bon, je voudrais bien que ces gens, les Vietnamiens ou les Chinois, gardent leur civilisation, mais qui parlent au moins notre langue. C'est quand même le but de l'éducation nationale du Cambodge en 1970 de tout traduire en Khmer. Et je voudrais aussi dire à nos intellectuels, surtout ceux qui ont fait des études en France ou aux États-Unis, que les idées, la pensée occidentale, elle ne peut pas être emportée comme ça dans le pays. Il faudrait quand même savoir qu'une pensée est pour un pays. Et ça nous empêche de... Bon, on peut apprendre, connaître ses pensées, mais essayer d'avoir quelque chose qui est la pensée khmère. Voilà. Et non pas de faire...
Une copie. Donc une adaptation plus de ce qui se passait...
Oui, c'est ce qu'on le thème maintenant dit. Je voudrais bien qu'il y ait une culturation. Vous savez, par exemple, le droit de l'homme qui est universel. Bon, comment le droit de l'homme peut être implanté dans notre pays? Comment on peut parler des droits de l'homme à partir de nos acquis, de nos cultures?
Bien sûr.
C'est ça qui est important.
Et de la femme d'ailleurs aussi.
Voilà.
Alors Claire, donc on a vu un petit peu la logique. À noter également, et là vous en parlez d'ailleurs à différentes reprises dans votre livre aussi, à dire qu'il y avait aussi une particularité dans ce peuple cambodgien, bouddhiste donc, c'est la notion d'acceptation qui a permis aussi d'une manière particulière, parce que l'histoire c'est aussi un cadre et souvent, bien souvent c'est les facteurs qui sont le plus important que l'événement lui-même. Cet événement avait été d'une certaine manière préparé par un cadre particulier, un cadre local d'une acceptation de tout ce qui pouvait arriver. On ne remettait pas en question à partir du moment où ça
oui,
fait partie
bien sûr.
De...
Je pense que c'est connu, vous savez que la religion elle fait quand même partie intégrante d'une société. La religion bouddhiste a quand même façonné la pensée Khmer, toute une pensée de l'Asie. Bon, si on veut vraiment manipuler ce peuple, il fallait quand même passer par elle. Et les Khmer rouges ont joué à fond sur la pensée bouddhiste, sur ce qu'on appelle le karma, l'acte et ses conséquences. C'est-à-dire que si l'autre souffre, c'est parce qu'il a mérité, plus ou moins.
Mais dans le bouddhisme, on ne dit pas que c'est votre main qui va créer le jugement, n'est-ce pas ?
Non.
C'était juste ce qui n'avait pas été dit.
Voilà. Mais dans le bouddhisme, c'est-à-dire que dans le karma, c'est la vie avant qui détermine la vie maintenant. Et ce qu'il faut faire, c'est accepter sans trop se révolter. Parce qu'on ne se révolte pas contre le karma. Vous voyez, le karma, c'est pas une personnalité, c'est une chose, ce sont des actes. Et on ne peut pas se révolter contre une chose.
Donc le peuple ne s'est pas vraiment révolté contre
non.
ce qui se passait ?
Non,
il a laissé
le
faire.
Peuple a accepté plus ou moins. Et ben, c'est la tolérance à outrance, si vous voulez.
Donc là, en ce cas, ça a été utilisé, bien entendu. Comme d'ailleurs dans beaucoup de conflits, hein, on parle souvent que ce sont les religions qui sont la cause, mais je crois aussi qu'on les utilise bien pour pouvoir avancer dans ce que l'on a envie de faire avancer ou pas. Donc on était clair dans cette entrée dans ce que vous appeliez un camp. Vous nous aviez situé qu'il s'agissait en fait de villages qui étaient donc
encadrés. Oui.
Vous allez rester plusieurs années dans ces camps.
Je suis resté 4 ans.
4 ans. Ça veut dire quoi au quotidien un camp comme celui-ci ? Donc vous êtes intellectuelle, vous étiez professeure, enseignante, vous étiez directrice linguistique. Ça veut dire quoi pour vous en tant qu'enseignante ? Qu'est-ce qu'on vous fait faire ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Le travail qu'on nous demande, c'était très simple. C'est-à-dire que partir travailler chaque jour pour construire des digues, ou travailler à la rizière. Et le soir, il faut aller suivre des cours politiques où on nous expose le marxisme, figurez-vous. Le marxisme revu à la cambodgienne, coloré avec le bouddhisme. Alors là, vous n'avez pas intérêt à vous endormir parce que de temps en temps, on vous demande de répéter ce qu'on vient de dire. Si vous n'arrivez pas à ressortir les slogans qu'on vient de vous le dire, eh bien, alors là, c'est la disparition.
Attendez, vous voulez dire, c'est carrément l'assassinat, si vous ne pouvez
oui,
pas...
Oui, oui, pour l'assassinat, mais on ne les voit plus, ces gens-là. Donc, il faut faire toujours très attention à ce qu'on nous dit et de pouvoir le redire après.
Mais cela veut dire que certains sont peut-être limités au niveau intellectuel et n'arrivent pas tout simplement, ça arrive aussi, non ?
Oui, mais c'est très simple. Vous savez, ce qu'on nous dit, c'est pas très difficile. Par exemple, on vous dit, faisons la société nouvelle. Construisons une société nouvelle où on peut cultiver le riz 4 fois par an. Mais après une journée de travail harassante, vous pouvez vous endormir, vous n'avez pas entendu ça. Et on vous demande simplement de répéter ça. Il fallait pouvoir le redébiter comme il faut.
Et ça arrive que certains ne le redonnent pas ?
Ça arrive, oui.
Parce qu'ils s'endorment ou parce que...
Parce qu'ils s'endorment et moi, c'est pas ça, ce qui me fait très peur, c'est mon accent.
Votre garçon, votre fils, vous avez un fils.
Oui. Voilà, il y a aussi mon garçon, bon, lui aussi, il a été très très endoctriné.
Il avait quel âge, ce petit ?
À ce moment-là, il devait avoir 3 ans.
Et comment on endoctrinerait un petit 3 ans comme ça ?
Bon, on lui fait répéter à longueur de journée que je suis le fils de l'ANCA. L'ANCA, ça veut dire l'organisation, c'est-à-dire le gouvernement Khmer Rouge. Et je suis prêt à partir, à faire tout ce qu'il me demande. Et après, on dit à ses enfants que leurs vrais parents, c'est l'ANCA, c'est-à-dire l'organisation.
Oui, donc évidemment, on comprend que cela peut être dangereux pour l'enfant.
Oui, c'est très très dangereux.
Votre enfant a quel âge aujourd'hui ?
Pierre a 29 ans maintenant. Enfin, il s'appelle
il
Pierre.
Garde des...
Ah oui,
Pierre,
oui, il garde des souvenirs très douloureux, Pierre.